Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Vauclair, qui est professeure à l'université Paul Sabatier Toulouse 3, affiliée au laboratoire d'astrophysique de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Vous pouvez retrouver ses ouvrages. Il y a La théorie du tout, ouvrage collectif, qui est paru aux éditions Maison Neuve en 1999, et surtout La symphonie des étoiles, l'humanité face au cosmos, chez Albin Michel, paru en 1997, ouvrage pour lequel elle a reçu le prix du Cercle Doc et le prix Alpha d'Or de l'espace. Et j'ajoute enfin qu'elle est présidente de la Société française d'astronomie et d'astrophysique et membre fondatrice de l'Association des Amis de la Cité de l'Espace à Toulouse. S'il vous plaît, Claire, nous vous écoutons.
Merci. Bien, bonsoir. Je vais donc vous parler des étoiles. Je dois dire que c'est assez réjouissant de venir parler des étoiles à la fin du XXe siècle, à cette limite entre les deux siècles, parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que la compréhension des étoiles, ce que nous connaissons des étoiles maintenant, c'est vraiment une conquête de notre siècle. À la fin du siècle dernier, on ne savait pas ce qu'était une étoile. Et maintenant, à la fin du XXe siècle, nous connaissons l'intérieur du Soleil, donc qui est une étoile typique, l'étoile la plus proche de nous. Nous connaissons l'intérieur du Soleil à 1 pour 1000 près. Donc en fait, on a fait des progrès absolument fabuleux pendant ce siècle. Et puis la deuxième raison, c'est que nous avons découvert que ces étoiles fabriquent de la matière, fabriquent des éléments chimiques en fait, dont nous sommes faits. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu des étoiles qui existent dans l'univers avant la naissance du Soleil et de la Terre, avant la naissance du Soleil et de son cortège de planètes, eh bien nous, les hommes sur la Terre, nous ne pourrions pas exister, nous ne pourrions pas exister à l'époque actuelle. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes en l'an 2000, donc à la fin du XXe siècle, mais on peut dire, si on se resitue, et ce qu'on est capable de faire grâce aux découvertes du XXe siècle, si on se resitue dans l'histoire du monde, eh bien, nous existons sur la Terre aujourd'hui 4,5 milliards d'années après la naissance du Soleil et, disons, 12 milliards d'années après la naissance de l'univers. Et il a fallu qu'il y ait toute cette évolution de cet univers et toutes ces étoiles qui existent dans cet univers pour que nous puissions exister maintenant. Donc l'histoire des étoiles, c'est un petit peu notre histoire, c'est un petit peu nos ancêtres, les étoiles, et c'est probablement une des raisons pour laquelle on est tellement intéressé à observer le ciel, je pense, et à mieux comprendre justement les étoiles et l'univers, c'est que nous avons tous plus ou moins conscience plus ou moins intuitivement, justement, de ce que nos racines se trouvent dans le ciel. Alors, je voudrais juste vous lire un tout petit texte de Camille Flammarion à la fin du siècle dernier, un texte que j'aime bien parce que, justement, il montre bien où on en était des connaissances sur les étoiles à la fin du siècle dernier. Camille Flammarion parlait du Soleil, donc on savait déjà que le Soleil est une étoile. Le Soleil est une étoile banale, comme toutes les étoiles que vous voyez dans le ciel. Simplement, le Soleil, évidemment, nous sommes très proches du Soleil, donc c'est pour cette raison qu'il nous paraît très brillant et qu'il nous éclaire. Donc Camille Flammarion le savait très bien. Et alors, on connaissait l'énergie qui était émise par le Soleil. C'est facile aussi, parce qu'on sait quelle quantité de lumière et quelle quantité d'énergie lumineuse on reçoit sur la Terre, et on connaissait bien la distance de la Terre au Soleil, donc on pouvait en déduire quelle énergie le Soleil rayonnait par seconde. Et c'était absolument incompréhensible, cette énergie solaire, à la fin du siècle dernier. Camille Flammarion écrit en 1880, dans un ouvrage qui s'appelle « Les étoiles », il écrit « La chaleur émise par le Soleil à chaque seconde est égale à celle qui résulterait de la combustion de 11 quatrillions 600 000 milliards de tonnes de charbon de terre brûlant ensemble. Cette même chaleur ferait bouillir par heure 2 trillions 900 milliards de kilomètres cubes d'eau à la température de la glace. » Essayez de comprendre, disait Camille Flammarion, que la fourmi essaye de boire l'océan. C'est-à-dire qu'à l'époque de Flammarion, en 1880, c'était aussi incompréhensible, la chaleur émise par le Soleil, qu'à une fourmi de boire tout l'océan. C'était aussi difficile de comprendre d'où venait la chaleur émise par le Soleil qu'à une fourmi de boire l'océan. Et donc, je dirais, la science du XXe siècle, c'est la fourmi qui a bu l'océan, puisque maintenant, nous savons très bien d'où vient l'énergie du Soleil et des étoiles, mais pour le comprendre, il fallait faire un certain nombre d'études, un certain nombre de découvertes, et particulièrement découvrir l'énergie nucléaire, puisque ce qui manquait à l'époque de Camille Flammarion, c'était la connaissance de l'énergie nucléaire. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait comparer cette énergie du soleil qu'à du feu. On ne connaissait que le feu. En fait, c'est un exemple, il y en a d'autres. L'étude des étoiles est très liée à l'évolution générale scientifique, l'évolution de la physique, l'évolution des connaissances, et dans les deux sens. En fait, il fallait connaître l'énergie nucléaire pour comprendre les étoiles, mais d'un autre côté, l'étude des étoiles a permis de découvrir certains phénomènes qu'on a compris par des expériences ensuite sur la Terre. Donc en fait, cette étude des étoiles, c'est vraiment très très lié à la physique. Alors, ce qu'il faut pour comprendre ce que sont les étoiles, eh bien, c'est les observer, ces étoiles. Et en fait, tout ce qu'on sait, sauf pour le Soleil, qui est vraiment particulier par rapport à nous, puisque, encore une fois, nous sommes tout près, donc nous pouvons étudier le Soleil d'une manière tout à fait particulière. Sinon, les étoiles, eh bien, on ne les voit que comme des points brillants. Et même avec les plus grands télescopes qu'on puisse imaginer ou qu'on puisse construire à l'époque actuelle, les étoiles nous apparaissent toujours comme des points brillants. Parce que les étoiles sont tellement loin qu'on ne peut pas les voir, on ne peut pas voir le disque des étoiles comme on voit le disque du Soleil. Donc en fait, tout ce que nous connaissons sur les étoiles, ça vient de l'analyse du rayonnement qui nous vient d'un point brillant. Et c'est quand même assez fabuleux de voir tout ce qu'on peut obtenir comme information et comme information précise à partir simplement de l'étude du rayonnement d'un point brillant. Alors, cette analyse du rayonnement, en fait, il y a deux façons importantes. D'abord, étudier l'énergie justement qui est rayonnée par ces étoiles. Qu'est-ce qu'elles rayonnent? Quelle quantité de rayonnement, quelle quantité de lumière ces étoiles émettent? Ça donne une information importante sur les étoiles. Et puis, la deuxième façon d'analyser ce rayonnement, c'est d'étudier les couleurs, les diverses couleurs qui sont dans le rayonnement, c'est-à-dire l'arc-en-ciel des étoiles. Et c'est ces deux façons d'étudier les étoiles qui nous donnent des informations vraiment précises et que je vais vous indiquer maintenant. C'est un astronaute d'une mission spatiale qui est allé changer des instruments sur le télescope spatial Hubble. C'était en février 92, je crois. Ce n'est pas la dernière mission, c'est la mission précédente. Je vous montre cette image parce qu'on voit cet astronaute là qui se trouve là sur une navette spatiale américaine. Ici, vous voyez la Terre dans le fond, ce qui montre que bon, les astronautes ne sont pas très loin, ils sont juste à 400 km au-dessus de la Terre, ce n'est pas très haut. Mais ce que vous voyez ici, c'est le Soleil. Donc, en fait, les astronautes qui se trouvent dans l'espace, ils voient le Soleil dans un ciel noir puisqu'ils sont au-dessus de l'atmosphère terrestre et le Soleil apparaît comme une étoile. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que là, vous voyez la Terre et vous pouvez vous dire qu'il y a des gens. Là, on voit l'atmosphère terrestre. Là, il y a des gens qui se trouvent là et qui sont en train d'assister à un lever de soleil. Et voilà comment le Soleil apparaît dans l'espace. Donc, le Soleil, c'est une étoile. C'est une étoile vraiment banale, mais c'est aussi une étoile unique. Une étoile unique parce que nous sommes à côté et aussi parce que chaque étoile, malgré tout, diffère l'une de l'autre. Pardon, il faut que je m'habitue. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu des observations qui nous ont permis de faire connaissance avec les étoiles, et puis ensuite je vous dirai ce qu'est une étoile telle que nous le savons actuellement. Mais je voudrais commencer par les observations parce que pour faire comprendre comment l'astronome ou l'astrophysicien arrive à ses conclusions, compreniez que ce n'est pas, comment dire, quelque chose qui vient uniquement théorique, c'est vraiment concret, c'est vraiment un résultat d'observation. Alors, pour pouvoir comprendre mieux les étoiles et savoir quelle quantité d'énergie ces étoiles rayonnent, il est important de connaître leur distance. Parce qu'évidemment, deux étoiles différentes, une étoile très lumineuse et une étoile qui l'est moins, si l'étoile est très lumineuse et plus loin, eh bien, elle apparaîtra, le rayonnement qui arrivera sur la Terre sera moins important. Donc en fait, il ne suffit pas pour connaître le rayonnement qui vient d'une étoile, il ne suffit pas de l'observer sur la Terre, il faut aussi connaître sa distance. Et la distance des étoiles, c'est une conquête de notre siècle. C'est au début de notre siècle qu'on a commencé à savoir mesurer la distance des étoiles. Et la technique de départ, elle est très simple dans son principe. évidemment beaucoup plus difficile d'application. C'est toujours le cas, en fait. Les études du ciel, c'est toujours a priori très simple. La mise en place, après, est plus difficile. Donc, la technique de base, en fait, c'est ce qu'on appelle une méthode de triangulation. C'est la méthode qu'on utilise, que vous utilisez, que j'utilise, que tout le monde utilise tous les jours, pour voir le relief. Nous voyons le relief parce que nous avons deux yeux. Et les deux yeux permettent de voir le même objet dans une direction un petit peu différente. Donc, en fait, c'est une méthode qu'on utilise sur la Terre pour mesurer des distances d'objets éloignés, en prenant deux longues vues, par exemple, éloignées d'une certaine distance. Et si on veut avoir la distance des étoiles de cette manière, les distances les plus grandes sur la Terre ne sont pas suffisantes pour mesurer la distance d'une étoile. Donc, en fait, on utilise le fait que la Terre tourne autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil en un an, donc c'est le dessin que vous avez ici. Si vous observez une étoile, l'étoile ici par exemple, sur le fond du ciel, d'étoiles très lointaines, si vous observez cette même étoile en janvier et en juin, vous la verrez dans une direction un tout petit peu différente. Et c'est cette mesure de triangulation qui nous donne la distance des étoiles, et c'est fondamental pour pouvoir resituer les étoiles dans leur contexte, et pas seulement telles qu'on les voit par rapport à la Terre. Vous allez voir l'exemple de cette constellation bien connue qu'on appelle la Grande Ourse. La Grande Ourse, je pense que c'est la constellation la plus connue de l'hémisphère nord. Alors là, vous voyez une image d'une carte céleste. On dessine des cartes célestes depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Et ça, on sait dessiner des cartes célestes, même sans connaître la distance des étoiles. On peut placer les étoiles sur un diagramme comme ça, qui représente le ciel. Donc ici, vous avez une image, c'est une carte chinoise qui date du XIIe siècle. On reconnaît la Grande Ourse ici, qui n'est pas très bien dessinée, mais c'est quand même la Grande Ourse. Ici, vous avez cette constellation de la Grande Ourse. Justement, c'est extrait d'un livre de Camille Flammarion à la fin du siècle dernier. On reconnaît ici les trois étoiles de la Grande Ourse, le chariot. Et maintenant, vous avez la distance réelle des étoiles de la Grande Ourse telles qu'elles existent dans l'espace. Donc ici, vous avez un dessin de la Terre, quelqu'un, c'est nous, un petit bonhomme là, qui observe cette constellation de la Grande Ourse qu'on voit ici en projection sur le fond du ciel. Mais en fait, ce que vous voyez ici, ça représente la distance réelle des étoiles de la Grande Ourse par rapport à nous. Donc vous voyez, l'étoile qui est ici, par exemple, qui s'appelle Mégrèze, qui est celle-ci, eh bien, elle est trois fois plus près de nous que l'étoile ici qui s'appelle Alcaïde. Donc, en fait, on voit que la connaissance des distances des étoiles, ça nous les montre telles qu'elles sont dans l'espace en réalité. Et les constellations, en fait, n'ont de signification que par rapport à nous. Mais ce n'est pas du tout des étoiles qui sont au même endroit dans le ciel. Alors, si on parle de chiffres, parce qu'on peut parler un petit peu de chiffres, l'étoile Mégrèze qui est là, elle est à peu près à 50 années-lumière de nous. L'année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an. Donc l'étoile Mégrèze est à 50 années-lumière de nous et Alcaïde qui est là à 150 années-lumière. Donc ça veut dire que quand vous regardez les étoiles dans le ciel, vous voyez des étoiles, des objets célestes qui sont à des distances très différentes les unes des autres. Et en plus, vous ne les voyez pas au même moment. Parce que quand on regarde un objet céleste, en fait, ça veut dire que la lumière l'a quitté à une certaine époque, a voyagé dans l'espace pour arriver jusqu'à nous. Et donc, on voit l'objet céleste tel qu'il était quand la lumière l'a quitté. Donc, quand vous regardez la Grande Ourse, vous voyez une étoile ici il y a 50 ans et une étoile ici il y a 150 ans. Donc, cette connaissance des distances des étoiles était importante pour pouvoir les étudier individuellement et puis aussi resituer le Soleil par rapport au reste des étoiles. À la fin du siècle dernier, on pensait aussi que le Soleil était le centre du monde, ou en tout cas qu'il était le centre de la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée. Et en fait, grâce à ces mesures de distance, on a pu reproduire donc notre environnement dans la Voie lactée et savoir à quel endroit se trouve le Soleil. Donc ici, vous avez une galaxie qui est la galaxie d'Andromède, qui est une galaxie assez proche de la nôtre, de notre galaxie, la Voie lactée, donc qui comprend 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Et si on imagine qu'on se trouve ailleurs dans l'espace, sur une autre galaxie, et qu'on regarde la nôtre, et si ça ressemblerait à quelque chose comme ça, une galaxie spirale, et le Soleil se trouverait quelque part par ici. C'est-à-dire que le Soleil, grâce à ces mesures de distance, nous savons que le Soleil se trouve plutôt à la périphérie de notre galaxie. Donc, de cette manière, en mesurant les distances d'étoiles, là, je vous ai parlé d'une méthode pour déterminer les distances d'étoiles, il y en a d'autres, parce que la méthode dont je vous ai parlé n'est valable, n'est utilisable que pour les étoiles les plus proches. Sinon, pour des étoiles plus éloignées, on utilise des méthodes statistiques que je n'aurai pas le temps de vous décrire ici. Mais nous savons maintenant très bien mesurer la distance des étoiles. Il y a eu un satellite envoyé dans l'espace il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans, Hipparcos, qui permet d'avoir de façon très précise la distance de 250 000 étoiles. Et à partir de là, eh bien, on peut, de proche en proche, avoir des distances d'étoiles plus éloignées. Alors donc c'est la première chose parce que ça nous permet donc de savoir quelle est l'énergie rayonnée par chacune des étoiles. Une deuxième étude, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'analyse de ce rayonnement qui nous vient des étoiles, cette analyse en couleur. Donc on étudie l'arc-en-ciel stellaire, et en fait la couleur, ça nous donne une information sur la température. Si vous voyez une étoile qui est plutôt rouge, en fait on a du mal à voir les couleurs des étoiles, mais les étoiles ont des couleurs et ont des couleurs vives. Vous avez des étoiles qui sont rouges, vous avez des étoiles qui sont bleues, vous avez des étoiles qui sont jaunes. Le Soleil est jaune et ça correspond à une certaine température. La couleur des étoiles correspond à leur température. Le Soleil qui est jaune a une température extérieure de 5800 degrés. Une étoile rouge a une température de l'ordre de 3500 degrés. Une étoile bleue, plutôt 20 000 ou 25 000 degrés. Donc une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile rouge. Ça surprend quelquefois. Ça semble un peu paradoxal parce que sur la Terre, on a l'habitude que le bleu soit froid parce que ça fait penser à l'eau. Le bleu est froid et le rouge est chaud. Mais en réalité, si vous prenez un morceau de fer et si vous le chauffez au rouge. Et si vous le chauffez encore plus, il devient blanc et puis à la limite, ça deviendrait bleu. Donc quand on chauffe quelque chose, ça devient d'abord rouge et ensuite, pour une plus grande température, ça devient bleu. Donc les étoiles bleues sont plus chaudes que les étoiles rouges. Et si, quand vous regardez les étoiles, vous pouvez voir cette couleur, mais vous ne le voyez pas comme une couleur vive. Et en fait, la raison, c'est simplement une question d'œil. C'est notre œil. Quand la quantité de lumière qui arrive sur la rétine est trop faible, l'œil ne peut pas distinguer les couleurs vraiment comme des couleurs vives. Mais on voit quand même la couleur des étoiles comme une sorte de reflet rouge ou bleu, alors que l'ensemble paraît un peu blanchâtre, mais on voit ce reflet. Il y a des gens d'ailleurs qui ne le voient pas. Tout le monde n'arrive pas à reconnaître la couleur des étoiles. Mais cette couleur des étoiles, donc, pour nous, c'est très important. Et donc, on étudie la couleur des étoiles dépend évidemment... on peut l'analyser de façon précise. Et ça donne quelque chose comme l'arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, c'est la lumière du soleil, la lumière du soleil qui est diffusée par les gouttes d'eau qui se trouvent dans l'air. Et ces gouttes d'eau, elles ont la propriété de diffuser la lumière différemment suivant la couleur. Donc le soleil, c'est un ensemble, il paraît jaune, mais en fait c'est un ensemble de toutes les couleurs. Et quand cette lumière est diffusée, on voit l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, donc on peut faire des arc-en-ciel artificiels, ce qu'on appelle des spectres solaires, et on fait la même chose avec les étoiles, des spectres stellaires. Et si on le fait donc de manière artificielle, de façon précise, on voit apparaître des couleurs qui manquent, des couleurs manquantes, des régions sombres. Ces régions sombres, on les appelle les raies spectrales, et pour nous, c'est absolument fondamental. Ces régions sombres, ces raies sombres, ça vient du fait que le rayonnement qui est produit dans le soleil, le rayonnement qui vient du soleil, au moment où il va sortir du soleil pour finalement arriver jusqu'à nous, eh bien, il est absorbé à certaines longueurs d'onde très précises par les éléments chimiques qui se trouvent dans sa matière, dans la matière solaire. C'est-à-dire que vous avez dans le soleil tous les éléments chimiques qu'on connaît, les éléments chimiques de l'hydrogène, l'hélium, le calcium, le phosphore, tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'à l'uranium, tout ça se trouve dans le soleil. Et ces éléments-là, ils ont la propriété d'absorber du rayonnement à des longueurs d'onde très précises, qui est leur signature. Donc en fait, ce que vous voyez ici, toutes ces raies, ça correspond à des éléments, c'est la signature d'éléments chimiques particuliers. Alors cette image suivante, ça vous montre la même chose, c'est toujours le spectre du soleil, mais là, cette fois-ci plus précis, en noir et blanc. Et donc vous voyez toutes ces raies, il y a des millions de raies, et ici c'est marqué, celles-ci sont des raies du calcium, du fer, encore le fer ici, vous avez ici Na, le sodium. Donc on reconnaît tous les éléments chimiques qui existent au monde dans le spectre du Soleil et de la même manière le spectre des étoiles. Donc en fait, d'étudier, d'analyser en couleur le rayonnement qui nous vient des étoiles, ça nous donne beaucoup d'informations. Ça nous donne des informations sur leur température, ça nous donne des informations sur leur composition chimique, parce qu'à partir de ces raies observées, on sait calculer quel est le pourcentage de tous les éléments chimiques qui composent la matière de l'étoile. Ça peut aussi nous donner des informations sur la vitesse de l'étoile par rapport à nous, si l'étoile s'éloigne ou si l'étoile se rapproche, parce que quand l'étoile s'éloigne, le rayonnement qu'elle émet, du fait qu'elle s'éloigne, le rayonnement qu'elle émet a une longueur d'onde qui s'étire un peu à cause de l'éloignement, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Donc il nous parvient avec une fréquence un petit peu plus vers le rouge, alors que si l'étoile se rapproche, les raies sont décalées un petit peu vers le bleu. Donc on a aussi une information sur la vitesse des étoiles, et puis leur rotation aussi, si elles tournent ces étoiles sur elles-mêmes. Parce que dans l'univers, tout bouge et tout tourne. Et les étoiles tournent sur elles-mêmes, et ces raies sombres sont plus ou moins larges, suivant que la vitesse de rotation de l'étoile sur elle-même. Si l'étoile tourne très vite sur elle-même, les raies sont plus larges. Si elle tourne moins vite, les raies sont plus étroites. Donc voilà toutes les informations. Il y en a beaucoup d'autres, je dis toutes, mais un exemple des informations qu'on peut avoir sur les étoiles à partir de l'observation. Et à partir de là, on peut étudier, c'est un diagramme qui a permis de comprendre toute la structure des étoiles et qui montre, c'est la quantité de lumière, ici on ne voit pas très très bien, la lumière qui nous vient des étoiles en fonction de leur température. On s'aperçoit qu'elles ne se situent pas n'importe où dans ce diagramme, ces étoiles, mais dans des régions très précises. Donc il y a les naines, les géantes, les supergéantes. Et c'est le diagramme de base de compréhension des étoiles. Alors cet arc-en-ciel, avant de passer à vraiment ce qu'est une étoile et comment une étoile est faite à l'intérieur, cet arc-en-ciel, cette décomposition de la lumière en longueur d'onde, ça ne va pas seulement du rouge au violet. Du rouge au violet, c'est la lumière que l'œil humain, c'est ce qu'on appelle la lumière visible, c'est la lumière que l'œil humain est capable de voir. Nous sommes capables de voir du rouge au violet. Mais en fait, il existe de la lumière bien au-delà de cet intervalle du rouge au violet, de la lumière noire, de la lumière invisible à l'œil, mais qui existe, qu'on peut détecter avec des instruments appropriés, et que les étoiles émettent. Les étoiles n'émettent pas seulement un rayonnement du rouge au violet, elles émettent aussi un rayonnement dans beaucoup d'autres longueurs d'onde. Alors, ce diagramme ici, c'est pour montrer justement tout ce rayonnement, comme la lumière, qu'on appelle le rayonnement électromagnétique, ce rayonnement qui existe, que les étoiles émettent, qui existe dans l'espace, et que notre œil ne voit pas, et qui non plus n'arrive pas toujours jusque sur la Terre. Alors ici, vous voyez, le visible, c'est du rouge au violet, ça représente le rayonnement du rouge au violet. Donc au-delà du violet, il y a l'ultraviolet. On connaît bien l'ultraviolet. L'ultraviolet qui est proche du violet, et il arrive jusque sur la Terre, c'est celui qui nous fait bronzer quand on se met au soleil. Et l'ultraviolet lointain, lui, heureusement, il n'arrive pas jusque sur la Terre, parce qu'on sait que ça nous poserait des problèmes. C'est la raison pour laquelle c'est si important de préserver la couche d'ozone, parce que c'est l'ozone qui arrête ce rayonnement ultraviolet. Donc au-delà du rayonnement ultraviolet, vous avez les rayons X, ceux qui sont utilisés dans les radiographies médicales, et au-delà des rayons X, les rayons gamma. Et de l'autre côté du rouge, il y a l'infrarouge, et au-delà de l'infrarouge, il y a les ondes radioélectriques qui servent pour les transmissions de la radio et télévision, et qui comprennent aussi les micro-ondes. Donc tous ces rayonnements-là existent dans l'espace et les étoiles émettent tout ce rayonnement-là. Mais ils n'arrivent pas jusqu'au sol. Donc ici, vous avez les longueurs d'onde correspondantes, je ne vais pas insister là-dessus, c'est pas grave. Ici, c'est la hauteur au-dessus du sol à laquelle il faut aller pour pouvoir recevoir, observer ces rayonnements qui nous viennent du ciel. Parce que, comme je vous le disais à l'instant, la plupart de ces rayonnements sont arrêtés par l'atmosphère terrestre. Donc, vous voyez ici, cette région noire, ça montre justement l'absorption du rayonnement par l'air, par l'atmosphère terrestre qui est au-dessus de nous. Par exemple, si on veut observer le ciel, les étoiles en rayon ultraviolet, il faut aller au-dessus de 150 km. Donc, il faut aller en satellite. Ça vous montre à quel point la conquête spatiale, le fait d'avoir maintenant, au cours de notre siècle, été capable d'envoyer des instruments dans l'espace, eh bien, c'est absolument fondamental pour notre compréhension du ciel et en particulier des étoiles. Pour les rayons X et les rayons gamma, vous voyez, il suffit d'aller au-dessus de 50 km et pour l'infrarouge aussi, au-dessus de 50 km. Donc on peut observer le ciel en infrarouge avec des ballons stratosphériques ou aussi en allant en satellite. Et vous avez ici le domaine des ondes radioélectriques qui, elles, arrivent jusqu'au sol, comme le domaine visible, mais qui sont observables avec des instruments appropriés qu'on appelle des radiotélescopes. Alors, toutes les étoiles émettent, donc pas seulement la lumière visible, mais aussi en rayon X ou bien en rayon infrarouge, et ça nous donne des informations particulières sur ces étoiles. Et c'est intéressant quand même de noter qu'une étoile comme le Soleil, qui est une étoile banale, une petite étoile banale, elle a un maximum de rayonnement en plein dans le visible, c'est dans le jaune. Et ce visible, c'est justement ce qui arrive jusque sur la Terre. Il y a un certain nombre de coïncidences là-dedans qui n'est certainement pas fortuit. Il se trouve que le Soleil émet principalement dans le domaine visible, que ce domaine visible, c'est le domaine de longueur d'onde que l'œil est capable de voir, et ce domaine visible, en plus, il traverse l'atmosphère, il arrive jusqu'au sol. Hein, ça fait trois événements en coïncidence qui sont quand même fondamentaux pour notre vie sur la Terre. Donc, ce n'est certainement pas vraiment une coïncidence, il y a quelque chose là-dessous de mutation ou d'organisation des espèces qui sort de mon propos, mais c'est quand même intéressant. Alors que si on observe par exemple une étoile, je vais prendre encore l'exemple du Soleil. J'oubliais que je voulais montrer que justement le fait que le rayonnement visible arrive jusqu'au sol, ça nous a permis d'avoir bien des informations. Si on n'avait pas eu des yeux pour voir le ciel et si ces yeux n'avaient pas été justement dans le domaine visible du rayonnement qui arrive jusqu'au sol, on ne pourrait pas voir les étoiles, donc on ne saurait pas tout ce qu'on sait sur les étoiles. Et puis il y a aussi bien des œuvres d'art qui n'auraient pas été créées. Hein, donc ici vous avez le ciel étoilé de Vincent Van Gogh, qui est un tableau bien connu. Et ici, c'est un ciel étoilé beaucoup moins connu. C'est un enfant de dernière année de maternelle qui a fait ce dessin. Alors, pour aller plus loin, donc, en observant les étoiles en rayon X, on a des informations importantes. Par exemple, si on observe le Soleil en rayon X, donc voilà le Soleil en rayon X, ça ne ressemble pas du tout au disque solaire dont vous avez l'habitude, eh bien c'est parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas vraiment le disque du Soleil, c'est ce qui est au-dessus du Soleil et qu'on appelle la couronne solaire. Et pourquoi ? C'est que je vous disais tout à l'heure que la température du Soleil est de 5800 degrés, ce qui correspond à la couleur jaune. Au-dessus du Soleil, il y a cette couronne qu'on voit quand on a des éclipses totales de soleil, on voit apparaître la couronne solaire. Et cette couronne, c'est du gaz chaud qui sort du soleil et qui chauffe beaucoup. Il chauffe tellement qu'il est porté à une température de 1 million de degrés. La couronne solaire a 1 million de degrés. Et 1 million de degrés, c'est du gaz qui rayonne en rayonnement X. Donc en fait, quand on observe le Soleil en rayonnement X, alors pour ça, il faut aller dans l'espace. Ça, c'est une image qui a été obtenue à partir d'un satellite japonais qui s'appelle Yoko. Eh bien, on voit apparaître ici le gaz qui se trouve autour du Soleil. Alors, ça change beaucoup. Voilà un exemple à un certain moment. À un autre moment, ça ressemblera à ça. Ça bouge beaucoup. Et donc, c'est la même chose que cette couronne solaire qu'on voit quand on a une éclipse. Simplement, quand on regarde le Soleil en rayonnement visible, s'il n'y a pas d'éclipse, eh bien on ne voit pas la couronne solaire parce que le disque du Soleil est beaucoup plus brillant que la couronne solaire. Mais si on le regarde en rayon X, le disque du Soleil émet très peu de rayons X alors que la couronne émet beaucoup de rayons X. Donc à ce moment-là, on le voit. Et c'est important parce qu'on observe d'autres étoiles en rayon X et d'autres étoiles pour lesquelles, évidemment, on n'a pas d'éclipse. On ne peut pas voir la couronne des étoiles. C'est absolument impossible. Les étoiles, on les voit comme des points. Mais si ces étoiles émettent en rayon X, eh bien, on peut en déduire, par comparaison avec le Soleil, que ces étoiles ont une couronne. Donc, voyez l'importance de pouvoir observer le ciel dans d'autres rayonnements que le rayonnement visible. De la même manière, si une étoile rayonne en infrarouge, eh bien, on sait que c'est parce qu'il y a de la poussière autour. Il y a un disque de poussière autour, donc probablement un disque protoplanétaire, un disque qui peut donner des planètes. Donc toutes ces informations, on l'a simplement encore une fois, j'insiste un peu, mais c'est assez fabuleux, à partir de l'analyse du rayonnement qui nous vient d'un point lumineux. C'est encore une image de la couronne solaire, pour terminer avec la couronne solaire, qui est obtenue, celle-ci, avec le satellite SOHO, dont vous avez probablement entendu parler. Et ce sont des éjections, ce qu'on appelle des éjections de matière coronale. Ici, vous avez un disque qui cache le Soleil. Le Soleil est là, derrière. Ça, c'est un cercle blanc, simplement pour marquer l'emplacement du Soleil. Et ce Soleil, donc la couronne solaire que je vous ai montrée tout à l'heure, serait à peu près ici, cachée ici. Et en observant ce Soleil depuis l'espace, on s'est aperçu qu'il émettait de la matière très, très loin, et de manière très rapide. Ici, vous avez une comète qui tombe sur le Soleil. Ça, c'est autre chose. Mais on a vu, il y a beaucoup de comètes qui tombent sur le Soleil et probablement sur les étoiles, la composition des étoiles est peut-être très influencée par des comètes qui tombent dedans. Alors, après toutes ces explications des observations, du fait justement que tout ce qu'on sait sur les étoiles, on le sait à partir d'un point lumineux. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que c'est qu'une étoile? J'en arrive à la question, qu'est-ce qu'une étoile, vraiment? Eh bien, une étoile, c'est... Alors, ça va être un mot savant, un peu. Une étoile, c'est une sphère de gaz autogravitante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une grosse masse de gaz chaud. Alors, une grosse masse, pour le Soleil, c'est 2 milliards de milliards de milliards de tonnes, c'est-à-dire 333 000 fois la masse de la Terre. Donc vous avez et le Soleil est une étoile moyenne. Si vous regardez l'ensemble des étoiles, la masse des étoiles va de 1 centième de masse solaire à 100 fois la masse du Soleil à peu près. Donc le Soleil est vraiment une étoile moyenne. Eh bien, c'est une grosse masse de gaz qui s'est condensée pour une raison ou une autre. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et elle est en équilibre sous l'effet de son propre poids. Ça veut dire que si vous considérez des atomes qui sont dans les régions extérieures de cette étoile, il n'y a pas de surface. On parle de surface du Soleil, mais c'est une façon imagée de parler. Il n'y a pas de surface au sens de surface solide. C'est du gaz. Ce n'est que du gaz. Mais si vous imaginez un atome donc dans les régions extérieures du Soleil, qu'est-ce qui lui arrive à cet atome? Il a envie de tomber vers l'intérieur parce qu'il a un certain poids. C'est comme nous. Nous ne partons pas dans les airs parce que nous avons un poids. Nous sommes retenus par la Terre. Et nous ne pénétrons pas à l'intérieur de la Terre parce que le sol est dur. Hein, mais si on se trouve quelque part sur des sables mouvants, eh bien, on va inexorablement pénétrer et tomber à l'intérieur des sables mouvants. Hein, donc un atome à la surface, dans les régions extérieures du Soleil et des étoiles, c'est pareil. Il a envie de tomber vers l'intérieur, cet atome. Mais qu'est-ce qui se passe s'il tombe vers l'intérieur? Eh bien, il a des collisions, parce qu'il y a beaucoup d'atomes, donc il a des collisions, il rentre en collision avec les autres atomes qui se trouvent là, et plus il rentre vers l'intérieur, plus il y a de collisions, parce que la densité augmente et la pression augmente. Et qu'est-ce qui lui arrive? Ben, finalement, il est repoussé vers l'extérieur à cause de cette pression. Donc, en fait, une étoile, c'est ça. Une étoile, c'est ce qu'on appelle une sphère autogravitante. Ça veut dire une sphère qui est en équilibre sous l'effet de son propre poids, sous l'effet de sa propre gravité. Il y a l'effet de ce gaz qui a tendance à concentrer les atomes, à les faire tomber simplement à cause de l'effet de la gravité, mais ces atomes ils ne tombent pas vers le centre à cause de la pression qui les repousse vers l'extérieur. Donc c'est ça une étoile. Alors comment est-ce qu'elle se forme cette étoile, comment est-ce qu'elle évolue et qu'est-ce qui lui arrive? Alors bon, avant de vous parler de la formation, j'ai cette image ici que je vais vous commenter sur l'intérieur du Soleil, donc pour en dire un petit peu plus par rapport à l'intérieur des étoiles. Je prends comme exemple le Soleil, parce qu'encore une fois, c'est une étoile typique, le Soleil. Donc vous avez ici, c'est représenté la sphère extérieure là, de cette étoile, qui, bon, je vous rappelle, c'est juste une limite, mais en fait, il n'y a pas de limite nette, hein, c'est pas réel, c'est simplement qu'il faut bien le dessiner. Et pour le Soleil, le rayon du Soleil ici, c'est 700 000 km. Donc je vous disais tout à l'heure, la masse 333 000 fois la masse de la Terre, le rayon, 100 fois le rayon de la Terre. On peut mettre 100 Terres le long d'un rayon solaire. Donc, que se passe-t-il dans le Soleil? Et là, je reviens à la petite phrase de Camille Flammarion que je vous citais au début. Que se passe-t-il à l'intérieur du Soleil? Ce Soleil qui rayonne une intense énergie, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui permet au Soleil de continuer à exister et de rayonner cette énergie? Parce qu'il perd de l'énergie sans arrêt, ce Soleil. Donc, ce qui permet, ce qui fournit l'énergie qui permet au Soleil d'exister, ce sont des réactions nucléaires qui se passent au centre. Donc ici, dans le noyau central, alors là encore, c'est le dessin qui est fait comme ça pour le repérer, mais il n'y a pas de limite, il n'y a aucune limite, ce n'est que du gaz de façon continue depuis le centre du Soleil vers l'extérieur. Mais dans ces régions ici, ces régions centrales, donc ça correspond à 20% du rayon solaire à partir du centre, eh bien, vous avez des réactions nucléaires. Quelles réactions nucléaires? Les réactions les plus simples qui puissent se produire, c'est la fusion de l'hydrogène. Réaction très simple, mais que nous ne savons pas faire sur Terre, en tout cas pas de façon vraiment contrôlée, mais qui se fait naturellement à l'intérieur des étoiles. Donc, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium. Donc, chaque seconde, vous avez 564, je vais vérifier, mais 564 millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde qui se transforment en hélium à l'intérieur du Soleil. Quatre noyaux d'hydrogène qui se mettent ensemble pour former un noyau d'hélium. Et ce qui est important, c'est que si vous prenez quatre noyaux d'atomes d'hydrogène et si vous les mettez ensemble pour faire un noyau d'hélium, eh bien le noyau d'hélium a une masse un petit peu plus faible que la masse des quatre noyaux d'hydrogène de départ. Et c'est ça l'énergie nucléaire. C'est que quand vous fusionnez quatre noyaux d'hydrogène pour former un noyau d'hélium, il y a une certaine partie de la masse qui ne reste pas dans l'hélium et qui est libérée sous forme d'énergie. Et c'est la fameuse formule d'Einstein, E égale mc2, c'est que la masse est transformée en énergie. Donc chaque seconde, vous avez 564 millions de tonnes d'hydrogène transformées en hélium, mais il ne reste que 560 millions de tonnes d'hélium. Et les 4 millions de tonnes restants, ils sont transformés en énergie, et c'est ce qui donne la luminosité solaire. Alors voilà donc ce qui se passe dans le Soleil actuellement. Des réactions de fusion, hein, c'est différent des réactions de fission de l'uranium. On peut aussi avoir de l'énergie nucléaire en cassant des noyaux lourds, mais c'est différent, c'est ce qu'on appelle les réactions de fission, alors que ce qui se passe dans le Soleil, c'est des réactions de fusion. Donc ces réactions de fusion se passent ici à l'intérieur. Ensuite, de l'intérieur, de quelle manière, comment se comporte cette énergie? Et en fait, c'est de la lumière, c'est des photons de lumière. Mais ces photons de lumière qui sont créés au centre du Soleil, donc dans la transformation d'hydrogène en hélium, ce sont des photons de rayon X au départ. Et puis, qu'est-ce qui leur arrive, ces photons? Eh bien, ils sont absorbés par les atomes qui se trouvent là, et réémis, et absorbés, et réémis, et absorbés, et réémis des milliards et des milliards et des milliards de fois. Et ils s'acheminent comme ça, très lentement, depuis le centre, vers les régions extérieures. Il faut 10 millions d'années, même plus, quelques dizaines de millions d'années, à l'énergie produite au centre du Soleil pour arriver à l'extérieur. C'est-à-dire que cette lumière qui est rayonnée par le Soleil, elle a mis quelques dizaines de millions d'années pour venir, pour cheminer depuis le centre du Soleil. Vous voyez, c'est très, très lent. Donc c'est ce qui se passe ici, depuis le centre, tranquillement, la lumière se propage. Et jusqu'à arriver ici à une région, une limite, et à partir de, au-dessus de cette limite, qui là est à 72%, on le sait maintenant de façon précise, 72% du rayon, eh bien il se passe que il se forme, alors que le gaz est stable en dessous, ici il se forme des bulles de matière. Il y a une instabilité qui se produit, des bulles de ce gaz se met en bulles, et des bulles qui montent. Et il y en a d'autres qui descendent, exactement comme dans une casserole d'eau qui boue. On appelle ça de la convection. C'est ce qui se passe au-dessus des systèmes de chauffage qu'on appelle des convecteurs. Vous avez des mouvements de gaz qui se produisent à cause de la chaleur qui vient du dessous. eh bien, on peut calculer que dans le Soleil, il y a une région de convection qui se produit dans les 200 000 km vers la surface. Et cette région de convection, ça fait que la matière se déplace. C'est vraiment comme des cellules de convection, des mouvements qui se produisent et donc qui transmettent aussi la chaleur vers l'extérieur. Et vous savez certainement, bon, il y a tellement de choses à dire en 50 minutes, c'est difficile, mais vous savez certainement, donc, tout le monde sait que quand on regarde le soleil, surtout en ce moment, on voit des taches. On voit des taches sombres, on voit des taches solaires. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a des taches sur le soleil? Eh bien, c'est parce qu'il y a du champ magnétique. Il y a un champ magnétique qui est représenté par des pointillés ici, mais il y a partout du champ magnétique dans le soleil. Il se trouve que ce champ magnétique bloque cette convection. À certains endroits, ces mouvements convectifs sont gelés, sont bloqués à cause du champ magnétique. Quand les mouvements convectifs sont bloqués, il y a un transfert de chaleur qui ne se fait pas. Parce que le transfert de chaleur se fait ailleurs par ces mouvements. Là où il n'y a pas de mouvement, le transfert de chaleur ne se fait pas, ou il se fait plus lentement. Donc, en haut, ça apparaît sombre, et ça fait une tache noire. Enfin, elle n'est pas noire, la tache, mais elle est plus sombre que l'environnement. Donc voilà la structure du Soleil, c'est encore plus compliqué. Et là, vous avez ce qui est éjecté, les jets de masse coronale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, c'est ce qu'on appelle les protubérances, il y a sans arrêt des jets de matière qui sortent du Soleil et qui redescendent. Enfin, il se passe vraiment beaucoup de mouvements. Et alors, on a découvert donc cette structure de Soleil, on la connaît maintenant depuis, je dirais, 1950. Parce que pour pouvoir comprendre comment une étoile est faite à l'intérieur à partir des observations, eh bien évidemment, on le fait de façon théorique, grâce à des équations, on résout des équations. Et il se trouve que les équations qu'on a à résoudre pour étudier la structure des étoiles, on ne peut pas le faire comme ça de façon analytique, on ne peut le faire que de façon numérique. Donc en fait, on a pu comprendre l'intérieur des étoiles. D'une part, il fallait découvrir l'énergie nucléaire, mais d'autre part, il fallait avoir inventé les ordinateurs. C'est depuis qu'on a des ordinateurs qu'on sait calculer l'intérieur des étoiles. Donc je dirais que les premiers calcul précis de l'intérieur des étoiles, ça date des années 50, 1950, quand on a commencé à pouvoir faire des calculs sur ordinateur. Donc c'est une conquête de notre siècle. Mais il y en a une autre. Et il y en a une autre qui est plus récente et qui va nous permettre de déboucher aussi vers le 21e siècle, parce qu'il va certainement y avoir de nouvelles découvertes qui vont se faire grâce à ça dans la prochaine décennie, on l'espère tout au moins. Et cette découverte, elle date d'une vingtaine d'années, aux environs de 1980. Et cette découverte, c'est que eh bien, tous ces mouvements qui se produisent dans le Soleil, là je parle encore du Soleil, mais c'est certainement la même chose pour les autres étoiles, ces mouvements, ça fait comme des chocs. Il se passe beaucoup de choses tout le temps, et ça fait comme des chocs. Et ces chocs, qu'est-ce que ça fait? Ça met en branle, c'est le mot, ça met en branle le Soleil comme une cavité résonante, comme une caisse de résonance. Comme par exemple, vous soufflez dans une trompette, eh bien, vous mettez en vibration l'air qui se trouve à l'intérieur de la trompette, ça fait un son. Eh bien, le Soleil, c'est comme un gigantesque instrument de musique, sphérique, du gaz uniquement, du gaz qui n'a pas de contour. La trompette, c'est du gaz avec un contour, qui est les formes de l'instrument. Le Soleil, il n'y a pas de contour, il est dans tout l'espace comme une sphère. Mais cette sphère entre en vibration comme si on tapait dessus avec un marteau. Et cette vibration, donc, elle est due à tous ces mouvements. Et ces vibrations du Soleil, eh bien, on peut les observer, on sait les observer depuis, je vous dis, une vingtaine d'années. Pour pouvoir observer ces vibrations du Soleil qui sont très, très compliqué. Il y en a beaucoup de modes de vibration. Il y a des harmoniques. Il y a des harmoniques dans les vibrations du Soleil, comme il y a des harmoniques quand vous jouez une corde de violon. Vous jouez un son fondamental, et puis il y a toutes les harmoniques. Bien, dans le Soleil, c'est pareil. Il y a des harmoniques. Et c'est compliqué. Ce sont des harmoniques sphériques. Ce sont des harmoniques dans une sphère. C'est très compliqué. Il y en a 10 millions. On a pu détecter une dizaine de millions d'harmoniques différentes dans le Soleil, qui toutes se combinent évidemment pour donner ces vibrations, mais on peut les distinguer de la même façon que quand on entend, vous savez, les musiciens qui entendent un son complexes, avec un instrument particulier, ils arrivent à décomposer le son dans toutes ses harmoniques. Eh bien, on sait faire la même chose pour le soleil. Alors, voilà, on ne voit peut-être pas très bien, mais cette image vous donne un exemple des diverses harmoniques de vibration du soleil. Donc, c'est comme une cavité résonante. Donc, voilà un exemple ici, par exemple, une des harmoniques de vibration. Vous pouvez imaginer, je ne sais pas si on voit très bien, vous pouvez imaginer que toutes ces régions ici rouges, elles viennent vers vous, et puis les régions noires, elles vont, au contraire, elles s'enfoncent dans le soleil, et après, ça va faire le contraire. Donc vous avez des vibrations qui se passent de cette manière à la surface du soleil. Les périodes de vibration, c'est de l'ordre de 5 minutes. Donc en fait, il s'agit d'ondes sonores, c'est vraiment comme du son. Il s'agit d'ondes sonores qui se propagent à l'intérieur du soleil, mais ce n'est évidemment pas des ondes sonores qui seraient audibles à l'oreille, parce que la vitesse du son dans le gaz solaire, dans le gaz chaud du soleil, la vitesse du son est 1000 fois plus grande que la vitesse du son sur la Terre, pour nous, dans l'atmosphère terrestre. Et puis, les périodes, c'est de l'ordre de 5 minutes, alors que le son qui est audible à l'oreille, les périodes, c'est de l'ordre de 1 trentième à 1 trente millième de seconde. C'est une fraction, une petite fraction de seconde, tandis que là, on est à 5 minutes. Donc, ce n'est pas du tout des sons audibles, mais c'est des propagations d'ondes qui nous donnent des informations fabuleuses sur l'intérieur du Soleil. C'est comparable à ce que nous savons de la Terre grâce au tremblement de Terre. Si nous connaissons bien l'intérieur de la Terre, comment l'intérieur de la Terre est composé, c'est parce qu'il y a des tremblements de Terre, des ondes sismiques, et ces ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre et ressortent à un autre endroit, et on les étudie là où elles ressortent, et on en déduit ce qu'elles ont vu sur leur passage. Et de cette manière, on peut reconstituer l'intérieur de la Terre. Et bien maintenant, grâce à ces vibrations du Soleil, on peut reconstituer l'intérieur du Soleil à 1 pour 1000 près. Et c'est une nouvelle science qu'on appelle l'héliosismologie, la sismologie du Soleil, donc l'héliosismologie. Et alors, ce qu'on espère, c'est justement, dans la prochaine décennie, pouvoir faire une étude du même genre pour les autres étoiles, parce que pour l'instant, on ne sait le faire que pour le Soleil. Et pour ça, il faut envoyer des satellites dans l'espace. Et il y a un projet de satellite qui s'appelle COROT, qui devrait être envoyé d'ici 4 ans, si tout se passe bien, avec pour but justement d'observer des oscillations d'étoiles, des vibrations d'étoiles, et puis aussi de détecter, ça vous verrez ça peut-être demain avec mon collègue Alfred Vidal-Majar, de détecter des planètes extrasolaires, parce qu'il y aura les deux missions de cette expérience COROT. Alors, c'est pour vous montrer comment ces ondes sismiques se propagent à l'intérieur d'une étoile comme le Soleil. Donc, par exemple, je pars ici du point A, et si j'ai des ondes, j'ai toutes sortes d'ondes qui se propagent dans tous les sens, et par exemple, une onde qui pénètre profondément ici va ressortir assez loin du point de départ, et ça va donner des vibrations à grande échelle. Alors qu'une onde qui partira ici en se propageant moins profond va ressortir à des distances plus courtes et ça va donner des vibrations à petite échelle. Donc on a toutes ces sortes de vibrations dans le Soleil. Alors cette étude de l'héliosismologie et puis on l'espère bientôt de l'astérosismologie, c'est ce qui nous permet d'avoir l'intérieur, de connaître l'intérieur du Soleil à 1 pour 1000 près. C'est fabuleux 1 pour 1000 près. Ça veut dire, par exemple, quand je vous montrais tout à l'heure cette image de l'intérieur du Soleil, ce schéma de l'intérieur du Soleil, ça veut dire, par exemple, que la profondeur de cette région de convection, on sait que par rapport au rayon du Soleil, c'est 0,721. C'est-à-dire que c'est très, très précis. Si on cherche à savoir, par exemple, quelle est la température, la pression, la densité du Soleil à un rayon à partir du centre de, je dis n'importe quoi, 560 453 km, eh bien, on sait à 1 pour 1000 près quelle est la pression, la température, la densité. Voilà comment on connaît l'intérieur du Soleil actuellement. Et c'est important pour nous, parce que le Soleil, c'est quand même notre étoile, et cette étoile, nous sommes nés avec. Nous sommes nés, je veux dire la Terre et son cortège de planètes est né avec cette étoile. Et dans cette étoile, comme je le disais au début, ou plutôt dans le nuage de gaz dont cette étoile, le Soleil et son cortège de planètes se sont formés, dans ce nuage de gaz, il fallait qu'il existe déjà les éléments dont nous sommes faits. Donc c'est important pour nous de connaître très bien l'intérieur du Soleil, sa formation et son évolution. Alors, ces étoiles, donc, les autres étoiles, on en voit de toutes sortes. Donc, on voit des étoiles naines, on voit des étoiles géantes, on voit des étoiles qui sont en train de brûler l'hydrogène au centre, comme le Soleil actuellement. Mais ces étoiles sont toutes très semblables au Soleil. Elles ont, bon, il y a des différences de composition chimique, il y a des différences de rayons, mais c'est toutes, comme le Soleil, des sphères autogravitantes. Elles se comportent toutes de façon semblable au Soleil. Alors, je voudrais terminer avec justement cette histoire des étoiles. Je vous ai parlé du Soleil, je vous ai parlé des observations, je vous ai parlé de l'intérieur du Soleil. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots quand même sur la manière dont ce Soleil et dont les étoiles se forment, puisqu'on voit encore actuellement des étoiles se former, et quel est le temps, quelle est la durée de vie et ce qui va se passer dans l'avenir pour le Soleil et pour les étoiles. Alors, ces étoiles se forment dans des nébuleuses, des nuages de gaz. Et là, vous avez une nébuleuse qui est la nébuleuse d'Orion, qui est bien connue des astronomes amateurs. C'est une nébuleuse qui est visible facilement à la jumelle dans le ciel. Et quand on regarde cette nébuleuse avec le télescope spatial Hubble, c'est le bord de la nébuleuse d'Orion. On voit apparaître ici des granules, des grains. Alors, ce sont les distances, là, c'est de l'ordre de l'année-lumière, c'est quand même très grand. Mais ce que vous voyez là, et qu'on va voir ici, cette région-là, on va voir un petit peu plus précisément ici, ce que vous voyez là, eh bien, ce sont des systèmes planétaires en formation. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un nuage de gaz donc, qui s'est effondré pour former... tous ces points-là, ce sont des nuages de gaz qui se sont effondrés sur leur propre poids pour donner une étoile. Donc ici, il y aura probablement plus tard une étoile au centre et un disque autour. On appelle ça des proplides en anglais, ça veut dire protoplanetary disk, c'est-à-dire c'est un disque protoplanétaire des étoiles en formation. Donc en fait, on voit en direct, je dirais maintenant, on voit en direct des formations d'étoiles. Donc les étoiles se forment dans des nébuleuses. Elles peuvent se former aussi de façon bizarre. Ici, vous avez une image, encore avec le télescope spatial Hubble, c'est une image d'une galaxie, une galaxie lointaine. La voilà, la galaxie. Ne regardez pas ici, regardez simplement ce cadre qui correspond à quelque chose d'observé dans le ciel. Donc ici, c'est une galaxie. Et qu'est-ce qui s'est produit avec cette galaxie? Il s'est produit une collision avec une autre galaxie. Donc vous en avez deux ici, on pense qu'il y en a une des deux, au moins, qui est rentrée en collision avec celle-ci et qui ensuite a continué ce chemin. Mais au cours de la collision, ça a fait une onde de choc. Et cette onde de choc, ça a produit du gaz qui s'est échappé sous forme un peu comme une roue, on l'appelle la galaxie de la roue de charrette. Et cette roue qui est ici très loin de la galaxie centrale, c'est donc du gaz qui est sorti de manière comprimée de la galaxie, et la compression, eh bien, ça conduit à la formation d'étoiles. Parce que pour avoir des étoiles nouvelles, qu'est-ce qu'il faut? Ce n'est pas compliqué, il faut simplement qu'un processus qui le produise, mais pour avoir une étoile nouvelle, il faut qu'il y ait une grande quantité de matière, la quantité de matière qui correspond à la masse d'une étoile, qui soit comprimée à un certain moment, de telle façon que ça s'effondre. Et donc ici, c'est bleu parce que vous avez plein de nouvelles étoiles qui se sont formées. Alors, quand une quantité de matière, c'est comme ça, a commencé comme ça à s'effondrer, la suite est inexorable. On le sait très bien, on sait très bien le calculer, on connaît l'histoire d'évolution des étoiles. Quand ça s'est effondré, forcément, ça chauffe à l'intérieur. On ne peut pas échapper à ça, l'intérieur commence à chauffer. En même temps, ça rayonne, parce que l'étoile qui s'effondre, cette masse de gaz qui s'effondre, elle rayonne de l'énergie. Elle rayonne de l'énergie vers l'extérieur, elle chauffe à l'intérieur. Et elle continue à s'effondrer jusqu'à ce que, eh bien, que la température au centre soit suffisante pour qu'il y ait les premières réactions de fusion d'hydrogène en hélium. Quand se produisent les premières réactions de fusion d'hydrogène en hélium, tout se stabilise et on a une étoile comme le Soleil. Alors pour le Soleil, combien de temps ça peut durer? Eh bien, tout le temps qu'il y aura de l'hydrogène à l'intérieur, tout le temps qu'il y aura du combustible. Et pour ça, globalement, c'est 10 milliards d'années. Le Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années. Alors, comme on sait que l'âge du Soleil, c'est 4 milliards et demi, eh bien, nous existons à la moitié du temps de vie du Soleil. Le Soleil a encore 5 milliards d'années à vivre. Alors maintenant, une étoile plus massive, elle vit moins longtemps parce qu'elle rayonne plus d'énergie. Elle est aussi plus grosse, donc elle a plus de combustible. Mais quand on fait le bilan général, on s'aperçoit qu'une étoile plus massive vit moins longtemps. Et au contraire, une étoile de plus petite masse vit plus. Donc pour le Soleil, c'est 10 milliards d'années. Donc une étoile, ici, vous avez un amas d'étoiles. Les étoiles se forment quelquefois seules, quelquefois avec un disque protoplanétaire autour. Donc il y a des étoiles probablement sans planète, des étoiles avec planète. Quelquefois, elles se forment à deux, très fréquemment d'ailleurs, parce qu'il y a plus de la moitié des étoiles qui sont doubles. Et quelquefois, elles se forment dans un ensemble, c'est ce qu'on appelle un amas d'étoiles. Donc ici, c'est l'amas d'étoiles des Pléiades, c'est un exemple des étoiles jeunes. Ici, vous avez un amas d'étoiles vieilles, ce qu'on appelle amas globulaire. Donc ces étoiles, elles vivent leur temps. Et que se passe-t-il à la fin? Eh bien, c'est la fin de la vie du Soleil, ici, que je vous montre, peut-être. Donc le Soleil a encore 5 milliards d'années à vivre. Que va-t-il se passer à la fin? Eh bien, il va grandir le Soleil. Il va grossir, toutes ces régions extérieures vont grossir et petit à petit englober les planètes qui sont autour, si les planètes sont encore là. Donc ça va chauffer, parce qu'à ce moment-là, cette nébuleuse, quelque chose comme ça, ça ressemble à ça, c'est le reste d'une étoile comme le Soleil qui a fini son existence. Et donc c'est une température, c'est quand ça va chauffer, ça va faire des 3000 degrés, enfin la Terre va chauffer dans 5 milliards d'années. Et donc ça rejoint la matière interstellaire et au centre, il reste ce qui était auparavant le cœur nucléaire de l'étoile et qui devient une petite étoile qui finit par se refroidir et qui va finir par disparaître, qu'on appelle une naine blanche. Alors c'est un exemple, il y en a d'autres qu'on observe. Voilà, un autre exemple, c'est la même chose, c'est simplement que la forme de la nébuleuse est un petit peu différente, mais il y a toujours la naine blanche au centre. Ici, encore un exemple où la nébuleuse, cette fois-ci, semble canalisée probablement par du champ magnétique, toujours la naine blanche au centre. Donc ce sont des exemples de scénarios de fin de la vie du Soleil. Maintenant, une étoile plus massive que le Soleil, 6-8 fois plus massive que le Soleil et encore plus, ne termine pas sa vie de cette façon-là. Elle explose. On sait que les étoiles massives, quand elles n'ont plus de combustible, elles explosent. Et quand elles explosent, ça donne ce qu'on appelle une supernova. Donc voilà un exemple. C'est très différent comme échelle de temps. La fin de la vie du Soleil se produira dans 5 milliards d'années. Et dans 5 milliards d'années, il y aura cette expansion qui elle-même va prendre quelques dizaines de millions d'années. Tandis qu'une étoile qui explose, ça se fait en quelques heures. Ce qui est absolument extraordinaire en astrophysique, en astronomie. On a l'habitude, quand on observe le ciel, d'avoir des échelles de temps qui sont bien plus grandes qu'une vie humaine. Tandis que là, on a un phénomène qui se produit en quelques heures. Donc voilà, une étoile avant son explosion, et voilà la même étoile après l'explosion. Donc ça, c'est un événement qu'on a observé il y a quelques années dans le Grand Nuage de Magellan. Et ces étoiles qui explosent beaucoup, beaucoup plus tard, eh bien, ça donne des jolies nébuleuses, des filaments de ce genre. C'est très important pour nous, et je vais terminer là, c'est que ces étoiles, donc je vous ai expliqué comment était faite une étoile à l'intérieur, je vous ai dit que si l'étoile rayonne, c'est parce qu'il y a des réactions nucléaires au centre de l'étoile, mais ces réactions nucléaires, elles ont deux rôles. Le premier rôle, c'est de fournir l'énergie qui est nécessaire à l'étoile, mais le deuxième rôle, c'est de transformer la matière. Parce que la matière qui s'est trouvée dans une étoile, elle n'a plus la même composition qu'avant. L'hydrogène se transforme en hélium, mais plus tard, il y a d'autres réactions nucléaires qui se produisent, l'hélium qui se transforme en carbone, en azote, en oxygène, et d'autres réactions plus compliquées qui font que, petit à petit, se produisent des éléments plus lourds, les éléments jusqu'à l'uranium, et quand les étoiles explosent comme supernova, ça fait une onde de choc qui traverse complètement l'étoile, qui la porte d'un coup à une température de 1 milliard de degrés pendant quelques heures, c'est très rapide, et ça transforme complètement l'intérieur de l'étoile. Depuis le début de l'univers, il y a des étoiles qui existent, qui fabriquent des éléments plus lourds, qui les rejettent. Et notre Soleil, et notre Terre, et tout ce qui nous entoure, et nous-mêmes, on vient d'un nuage de gaz qui contenait déjà cette matière qui avait été éjectée par d'autres étoiles. Et en faisant des études radioactives, on a la certitude qu'il y avait au moins une supernova qui a explosé peu de temps avant que le Soleil ne naisse. Et voyez, je vais terminer là-dessus, voyez à quel point l'étude des étoiles, c'est important, parce que, je reviens sur le début, nous sommes nés des étoiles. Merci.
Oui, bonjour madame, je voulais...
Où êtes-vous ?
Je suis là, debout. Je voulais vous poser une question sur la différence essentielle de constitution entre ce qu'on appelle les étoiles de première génération et les autres.
En astronomie, comme partout, on aime bien faire des classifications. Et les classifications, c'est important parce que bon, c'est ce qui permet d'avancer. On connaît l'âge des étoiles, on sait déterminer l'âge des étoiles, pas de toutes les étoiles, mais les étoiles qui se trouvent en amas. Je vous ai montré deux amas d'étoiles, vous savez, les Pléiades et puis un amas globulaire. On sait déterminer l'âge de ces étoiles parce que bon, on a une connaissance précise de la manière dont la luminosité évolue au cours du temps, température, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a des étoiles vieilles, des étoiles qui ont été formées dans le tout début de la galaxie. Et notre galaxie, elle a un âge qui est presque l'âge de l'univers. Elle a un âge qui est 10, 12 milliards d'années, on ne peut pas dire exactement, mais quasiment les galaxies, dont la nôtre, semblent s'être formées très, très tôt dans l'évolution de l'univers. Donc, notre galaxie est très vieille. Et le Soleil est une étoile plutôt jeune par rapport aux autres étoiles. Donc on peut déterminer l'âge d'étoiles comme celle de ces amas globulaires. On trouve 12 milliards d'années, ou même quelques fois plus. D'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est que l'année dernière ou il y a deux ans, on trouvait d'un côté que l'âge de l'univers, de l'autre côté l'âge des étoiles, on avait l'impression qu'elles étaient plus vieilles que l'univers. Donc vous voyez, c'est vraiment très très proche, c'est vraiment des très très vieilles étoiles. Évidemment, c'était à l'intérieur des incertitudes. Donc voilà, il y a des étoiles très très vieilles, il y a des étoiles plus jeunes. Et elles ne se situent pas non plus au même endroit dans la galaxie. Je vous ai montré la galaxie d'Andromède, qui ressemble à notre galaxie. C'est une galaxie spirale qui a une forme de disque avec des bras spiraux. Mais il n'y a pas que ça dans notre galaxie. Il y a aussi des objets célestes qui appartiennent à la galaxie et qui sont dans une sphère au-dessus, qui ne sont pas dans le disque de la galaxie, qui sont au-dessus ou en dessous, dans une sorte de sphère. Et les amas globulaires, ça en fait partie. Donc, en fait, on avait ces étoiles vieilles qui se trouvent dans ce qu'on appelle le halo de la galaxie, pas dans le disque, mais dans une structure sphérique. Et puis, des étoiles jeunes, comme les Pléiades, là, qui sont des étoiles très jeunes, ou comme le Soleil, qui se trouvent dans le disque de la galaxie. Alors, on a appelé ça première génération d'étoiles et deuxième génération d'étoiles. En fait, c'est un peu une classification un peu peut-être brutale, parce que, bien entendu, il y a des étoiles intermédiaires. Mais c'est en gros, c'est la première génération d'étoiles, c'est des étoiles qui se sont formées très tôt dans la galaxie, quand la galaxie était sphérique, parce qu'on pense qu'au début, la galaxie était probablement sphérique en rotation, et qu'ensuite, elle s'aplatit comme sous forme de disque assez rapidement, parce que c'est l'état stable, quelque chose qui tourne, c'est l'état stable d'être en forme de disque, et que les autres étoiles se sont formées après. Maintenant, les étoiles les plus vieilles, elles ont déjà des métaux. Quand on regarde le spectre, on voit qu'il y a déjà des éléments lourds. Et dans la mesure où on sait que dans les premiers instants de l'univers, il n'y avait pas d'éléments lourds et que les éléments lourds, ils ont été fabriqués dans les étoiles, on se dit que cette première génération d'étoiles, entre guillemets, ben, c'est peut-être pas vraiment la première. Peut-être qu'il y en a une autre avant qui a fabriqué les éléments lourds qui existent dans celle-là. Et alors, ce serait, du coup, il y aurait eu trois générations d'étoiles. Mais enfin, ça, c'est une classification. C'est simplement un effet d'âge différent.
Une question de monsieur ?
Oui, bonjour. Bonsoir. Je voudrais revenir. Je suis là. Je voudrais revenir sur les différences de température qui existent entre la surface du Soleil,
oui,
et la couronne solaire.
Oui.
Comment expliquez-vous ça ?
Eh bien, c'est un gros problème. C'est pas du tout évident. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet. Et je crois qu'on converge actuellement vers une idée, mais qui n'est pas très simple à expliquer. C'est un effet magnétique. Il y a du champ magnétique. Alors, le champ magnétique, ça a des propriétés de canaliser la matière et aussi l'énergie. Bon, si vous voulez, vous avez comme... Bon, je ne voudrais pas employer des mots trop compliqués, mais comme des tubes de champ qui sortent du Soleil, qui redescendent, si vous avez des tubes de champ magnétique. Et alors, ce qui se produit, c'est que ça se tord. Ça se tord à cause des mouvements. Alors, l'analogie que je prends habituellement dans ce genre de questions, c'est que vous prenez un élastique, un gros élastique, et puis vous le tordez, l'élastique. Et à un moment, il casse. Ça fait mal. Ça fait mal, ça libère d'un coup de l'énergie. Donc c'est ce genre de choses qui doit se produire dans les régions extérieures du Soleil, ces champs magnétiques qui sont tordus dans tous les sens, il se passe des tas de choses très très compliquées à cause des mouvements, de tous ces mouvements qui se produisent dans le Soleil, ça fait une déperdition d'énergie qui finalement conduit à chauffer la couronne solaire. Mais ce n'est pas du tout clair, hein. Enfin ce n'est pas du tout clair, ce n'est pas du tout simple. Pas du tout simple. Ça me fait penser que je n'ai pas dit une chose, peut-être, je réalise que j'ai oublié de dire qu'à l'intérieur du Soleil, au centre du Soleil, la température est très élevée aussi, elle est de 16 millions de degrés au centre. Mais ça, c'est différent, ça c'est normal, c'est à cause de la densité, de la pression et de la chaleur qui règne au centre. Mais voilà, le chauffage de la couronne solaire, c'est une question qui n'est pas simple.
Question de monsieur.
Oui. Bonjour. Bonjour.
C'est difficile.
Bonjour. Je voulais savoir si on comprend comment il se fait que les éléments lourds qui ont été constitués par une première génération d'étoiles résistent à la formation d'une nouvelle étoile. Enfin, comment se fait-il qu'ils ne se précipitent pas au centre et ne soient pas désintégrés dans fissions ?
Comment dire, les éléments chimiques qui sont quand même assez stables, disons ceux qui ne résistent pas à la formation d'une étoile. Quand une étoile se forme, il y a un très fort rayonnement ultraviolet qui se produit. Et ce rayonnement ultraviolet détruit certainement les molécules. S'il y a des molécules dans le gaz, les molécules sont détruites, mais pas les atomes. Alors, pas les noyaux d'atomes, parce que les noyaux d'atomes ne sont pas détruits par ce rayonnement ultraviolet. Les noyaux d'atomes ne peuvent être détruits que par un rayonnement X. De énergétique X. Alors maintenant, pourquoi les atomes ne tombent pas vers le centre ? Eh bien, en fait, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qui se produit dans les étoiles. Effectivement, les éléments lourds ont tendance à tomber vers le centre, mais c'est lent quand même. C'est lent parce qu'un élément lourd, il ne va pas tomber comme ça, justement à cause des collisions qu'il subit avec les autres et qui ralentit la chute. Il y a autre chose, c'est que dès que l'étoile se forme, il y a donc ce rayonnement qui provient des régions internes de l'étoile et qui est diffusé justement vers l'extérieur. Et cette diffusion de ce rayonnement, eh bien, ça repousse aussi les éléments vers l'extérieur. Donc en fait, dans une étoile, il y a encore une troisième chose que j'oubliais, c'est les mouvements. Parce que quand une étoile se forme, elle est très certainement totalement convective. Donc c'est tout en mélange à l'intérieur de l'étoile. Donc en fait, il y a tout ça à la fois qui fait qu'il y a la séparation des éléments lourds qui tombent et qui sont remplacés par les éléments légers, ça se fait lentement. Quand l'étoile est très convective au début, il n'y a pas de réaction nucléaire encore au centre. Et après, quand l'étoile se stabilise et qu'il y a les réactions nucléaires au centre, à ce moment-là, d'abord, ce n'est pas assez chaud pour détruire les éléments lourds, il y a ça aussi. Quand il y a les réactions nucléaires qui commencent au centre, c'est les réactions de fusion d'hydrogène en hélium. Il n'y a pas de réaction nucléaire de fission dans l'autre sens. Donc, en fait, ça fait plusieurs éléments de réponse, si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous satisfait ou si c'était bien votre question.
Oui, c'était bien ma question, mais ça reste mystérieux pour moi d'imaginer que, par exemple, le noyau de la Terre, il y a beaucoup de fer, je crois, soit extérieur, comme ça, reste à l'extérieur, et puis qu'il y ait cette boule d'hydrogène au centre de...
Ah, mais l'hydrogène, il y en a partout.
Oui.
Non, mais attendez. Il y a au centre du Soleil, il y a de l'hydrogène. Il y a de l'hélium, 10% d'hélium par rapport à l'hydrogène. Il y a tous les éléments, enfin, ils sont là, les éléments lourds. Disons que quand une étoile se forme, quand une étoile comme le Soleil se forme au départ, elle est homogène en composition chimique. Il y a de l'hydrogène partout, et l'hydrogène, l'hélium, les éléments lourds en composition, en pourcentage, c'est pareil partout. Donc, c'est pas une boule d'hydrogène. Les éléments lourds, ils sont là aussi. Mm-hmm. Simplement, les éléments lourds, eux, ils ne subissent pas de réaction nucléaire. Parce que pour que des éléments lourds puissent subir des réactions nucléaires, il faut qu'ils fassent très, très chaud. Mm-hmm. Si vous voulez... Pardon ?
Dans quelle proportion ?
En masse, il y a 2% de métaux. Pardon. 2% d'éléments autres que hydrogène et hélium. Voilà. Oui, c'est ça. Oui.
Non, ce que dit monsieur, parce que je n'entendais pas très bien, les éléments lourds qui nous constituent actuellement, c'est 2% par rapport à l'hydrogène. Mais la Terre, la composition chimique de la Terre a changé, parce que la Terre est une petite planète, et donc l'hydrogène s'est évaporé, l'hydrogène est parti. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup d'hydrogène sur la Terre. L'hélium aussi, il est resté des éléments lourds, et l'atmosphère actuelle de la Terre s'est renouvelée. C'est le dégazage des roches, et puis... Ben, les premières plantes qui ont conduit à l'oxygène actuellement, donc ça s'est complètement renouvelé. Disons que tous les éléments légers qui existaient ont disparu. Mais au départ, il n'y avait que 2% de métaux par rapport à l'hydrogène.
Ma question serait liée à la durée de vie du Soleil et ses conséquences sur la durée de vie sur la Terre. Vous avez dit que le Soleil a encore pour 7 milliards d'années.
Oui.
Est-ce que ça va signifier la fin de la vie sur Terre ou est-ce que la vie sur Terre aura déjà disparu bien avant à cause du réchauffement ?
Oh, à cause du réchauffement, non. Non, parce que pendant 5 milliards d'années, le Soleil va très peu changer. Alors, attendez. Si vous me parlez du réchauffement atmosphérique et du problème du gaz carbonique, ça, c'est autre chose. C'est autre chose et en fait, moi, je ne sais pas trop vous répondre. Je pense qu'il faut poser la question à des spécialistes de l'atmosphère. Mais je pense qu'il y a un problème réel de réchauffement, effectivement, de l'atmosphère actuellement. Et ce qu'il y a, c'est qu'il suffit de très peu de changements de température pour que ça pose des gros problèmes par rapport à la vie sur la Terre. Parce que ça fait un peu boule de neige. Là, c'est dès que vous réchauffez un petit peu, vous avez les glaciers qui fondent et puis ça se réchauffe encore plus. Enfin, c'est très, très, très délicat, l'équilibre. Mais là, on pourrait en parler longtemps. Et c'est de l'existence de la vie sur la Terre. Je pense qu'il y aura d'autres. Je suppose que dans ce livre-là, il doit y avoir des informations là-dessus. Sur le premier livre, Qu'est-ce que la vie ? Je ne sais pas s'il y a des informations là-dessus dedans, mais je pense. C'est vraiment extrêmement délicat, la vie que nous vivons actuellement sur la Terre. Il suffit de très peu de choses pour que tout soit modifié. Bon, il y a la Lune. S'il n'y avait pas la Lune, on ne pourrait pas non plus exister de façon stable comme on est actuellement. On sait que l'existence de la Lune a stabilisé aussi la Terre. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, en fait, il peut se produire des tas de choses avant 5 milliards d'années. Et ça, je ne peux pas le dire. Ce que je peux dire, c'est que le Soleil, lui, dans 5 milliards d'années, il va se mettre à grossir et que là, il faudrait être parti avant. Voilà.
Pourquoi s'attache-t-on à la conservation de l'énergie dans l'émission thermonucléaire du Soleil, à faire un bilan des masses et des énergies, et à dire donc que puisqu'il y a perte de masse, il y a émission de lumière? Pourquoi s'attache-t-on donc à la conservation de l'énergie dans le cas du Soleil et dans le cas d'un photon qui voyage et qui voit sa lumière, la raie spectrale, se décaler vers le rouge, et donc H nu, enfin HF, l'énergie HF du photon perd en quantité? Comment se fait-il donc que la conservation d'énergie n'a pas marché là et personne n'a l'air d'y attacher d'importance?
Non, ce n'est pas une question de conservation d'énergie à ce moment-là. Quand on fait un bilan global...
Sur un photon?
Oui, mais on ne peut pas faire un bilan sur un photon tout seul.
Ah non. c'est là le point.
Oui, oui, oui.
Oui.
Le
photon se regroupe
ça.
Avec les copains, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Est-ce qu'il est vrai qu'il y a de moins en moins de formations d'étoiles? C'est ma première question. Et la deuxième, vous avez montré sur une de vos diapositives que des images en rayons X sont très différentes des images du Soleil. Et est-ce que c'est courant et à quel rythme se produisent ces transformations?
La formation des étoiles, là, je ne sais pas. Je suis un peu surprise. Je ne sais pas d'où vient cette idée.
C'est ce que j'avais entendu.
Qu'il y aurait de moins en moins de formations d'étoiles Non, je ne pense pas. On assiste à des formations de la formation d'étoiles dans les nébuleuses actuellement. Il y a formation d'étoiles à chaque fois qu'il y a possibilité de compression de gaz. Donc, je vous ai montré deux exemples. Dans les nébuleuses, comme la nébuleuse d'Orion, c'est parce qu'il y a des mouvements, là encore, des ondes de choc qui compriment le gaz et qui font que se forment des étoiles. Quand il y a des étoiles, d'ailleurs, très massives qui explosent, des supernovae, justement, ça fait des ondes de choc et ça peut comprimer du gaz et produire en chaîne d'autres étoiles. Donc ça, c'est un exemple. Dans la nébuleuse de la route Charette, C'est un exemple tout à fait différent, où la compression du gaz, c'est venu de la collision avec une autre galaxie. Donc, en fait, il y a des choses comme ça qui se produisent et qui continuent à se produire dans les galaxies. Il existe des galaxies qui sont un peu différentes de la nôtre, qu'on observe dans l'espace, et qu'on appelle justement les galaxies à sursaut de formation d'étoiles. On appelle ça starburst en anglais. Ce sont des galaxies dans lesquelles on observe, on appelle ça sursaut, parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup de formation d'étoiles d'un coup. Et ça fait partie des thèmes des recherches actuellement des astronomes. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, parce que je ne pense pas qu'il y ait une diminution du taux de formation d'étoiles. Ou alors, est-ce que c'est dans un... Non, je ne vois pas trop. Maintenant, les images en visible et en rayon X, c'est simplement, il faut se mettre dans l'idée que la couleur ou la fréquence du rayonnement observé est reliée à la température de l'objet qui a émis. Si vous observez quelque chose qui rayonne, dont le maximum de rayonnement est en rayon X, ça veut dire que vous observez quelque chose de très chaud, de l'ordre d'un million de degrés. Si vous observez quelque chose qui est rouge, ça veut dire que c'est quelque chose de l'ordre de 3000 degrés, quelque chose comme ça. Quelque chose qui est bleu, 20 000, 25 000 degrés. Donc en fait, quand vous observez un même objet ou quand vous observez une même étoile avec des longueurs d'onde différentes, vous ne voyez pas la même chose de l'étoile. Vous ne voyez pas... Voilà, c'est un petit peu comme des tomographies, vous savez, en radio, là, des radios médicales, je veux dire, ce qu'on appelle des tomographies, c'est quand on fait des coupes. Ben là, c'est un petit peu pareil, vous observez des coupes. Quand vous observez le soleil, par exemple, en rayon X, vous voyez très loin, vous ne voyez pas le soleil lui-même, mais au-dessus, la couronne solaire. Quand vous observez en rayonnement visible, vous voyez le disque du soleil. Si vous regardez plus en détail, parce qu'on peut faire des choses plus précises, par exemple, on peut étudier une des raies de l'hydrogène. Vous prenez une raie de l'hydrogène qu'on appelle H-alpha, qui est une grosse raie de l'hydrogène. Eh bien, vous mettez une fente, vous observez le disque du Soleil, vous faites un spectre, et derrière, vous mettez une fente pour ne récupérer que la raie H-alpha. Vous faites balayer comme ça tout le disque du Soleil. Vous allez avoir une image du Soleil dans la longueur d'onde de la raie H-alpha. Eh bien, vous verrez encore quelque chose de différent, qui correspondra à la partie du Soleil qui est entre le disque et la couronne et qu'on appelle la chromosphère. Donc en fait, en étudiant des longueurs d'onde différentes, vous étudiez des profondeurs différentes. Et ça, on sait le faire pour le Soleil, donc le Soleil, on le connaît bien, mais on peut faire pareil pour d'autres étoiles. Quand on observe des étoiles dans des longueurs d'onde différentes, eh bien on sait qu'on observe des profondeurs différentes de l'étoile.
Apparemment, il y aurait deux types d'effondrements possibles dans l'univers. Qui produirait deux effets différents. D'une part, les trous noirs, c'est un type d'effondrement, et apparemment, un autre effondrement, ça serait la fin de vie d'une étoile.
Je pense qu'il y a eu une conférence, Jean-Pierre Luminet a dit, je ne sais pas si c'est déjà fait ou si ça va être fait, sur les trous noirs.
Quelle est la différence ? Est-ce qu'il y aurait effondrement et création d'énergie ou effondrement de la matière ?
Je ne suis pas sûre de bien suivre votre question, mais...
Moi non plus, je ne suis jamais...
Vous non plus. quand vous avez... Bon, j'ai parlé d'effondrement, enfin, peut-être à plusieurs moments. Quand une étoile se forme, une étoile se forme parce que, donc, il y a du gaz, cette grande masse de gaz qui devient... Bon, qui s'effondre, effectivement. Et l'effondrement s'arrête à cause de la pression qui est à l'intérieur de l'étoile et puis les réactions nucléaires qui viennent prendre le relais, qui permettent à l'étoile d'être stable. Imaginez que cette étoile-là, pour une raison ou une autre, une situation particulière, imaginez qu'on la force à se concentrer beaucoup plus. Elle ne veut pas l'étoile. Hein. Elle ne veut pas parce que sa stabilité à l'étoile, c'est d'avoir sa pression. Prenez le Soleil, par exemple. Le Soleil, il a 700 000 km de rayon. C'est son état stable. Imaginez que vous ayez, je ne sais pas quoi, moi, un bon Dieu qui a envie d'agir là-dessus et qui prenne le soleil et qui comprime le soleil, qui comprime le soleil, qui comprime le soleil, qui le force, hein, qui joue contre la pression pour comprimer. S'il arrive à être comprimé le soleil à 3 km de rayon, eh ben, ce sera un trou noir. Voilà. Alors maintenant, ce sera un trou noir parce que c'est une masse de matière tellement condensée que même la lumière n'en peut plus en sortir. N'importe quelle masse de matière peut devenir un trou noir. Le problème, c'est d'être suffisamment condensé. Alors, il se passe dans la nature que, dans certaines circonstances, cette concentration, cette compression va se faire de façon naturelle. Alors, de façon naturelle, c'est par exemple au centre, mais ça, c'est plus tout à fait pareil, c'est plus tout à fait mon propos, mais au centre de galaxies, qu'on appelle les galaxies actives, vous avez tellement de matière que ça va se condenser et ça va faire un trou noir qu'on appelle supermassif qui a un million de fois la masse du Soleil. Donc ça, c'est une situation où un trou noir peut se former. Il y a d'autres possibilités de formation des trous noirs, comme une étoile, mais une étoile qui s'est trouvée concentrée. Ça peut être aussi à la fin de son existence, donc une petite étoile devient naine blanche. Une étoile plus massive, je ne vous l'ai pas dit, mais une étoile qui explose, une supernova, en général, il reste quelque chose au centre aussi, qui est une étoile beaucoup plus condensée encore qu'une naine blanche. Une naine blanche, ça correspond à peu près, je ne sais pas, à 30% du Soleil, à peu près, ou peut-être un peu plus, ça a les dimensions de la Terre. Au centre d'une supernova, il y a une étoile beaucoup plus condensée, qu'on appelle une étoile à neutrons, et qui a des dimensions de l'ordre de quelques kilomètres. Et cette étoile à neutrons, en plus, elle a souvent un champ magnétique intense, elle condense la lumière dans une certaine direction, ça tourne, on le voit passer comme ça, et c'est ce qu'on appelle un pulsar. Donc ça, c'est une possibilité. Mais si maintenant, l'étoile à neutrons, si c'est encore plus condensé, ça peut devenir trou noir. Donc ce n'est pas des choses différentes, c'est la même physique, c'est simplement des conditions différentes qui font que ça se termine dans un état différent.
Une dernière question de monsieur.
Bonjour. J'ai entendu parler à propos des tâches solaires du Soleil, oui. Qu'il y avait un cycle de 11 ans à propos de ces tâches. Et j'ai aussi entendu parler que c'était lié à des phénomènes électromagnétiques tels qu'on pouvait en ressentir les effets sur la Terre. Par exemple, au Canada, il y avait eu des problèmes électriques. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et nous dire à quoi ce serait dû ?
C'est lié à un phénomène, c'est une observation, que tous les 11 ans, enfin il y a des périodes de 11 ans où on voit apparaître des taches solaires, puis après il n'y en a plus, puis après il y en a à nouveau. C'est un fait d'observation, mais on l'explique maintenant. Et en fait, on l'explique par ce qu'on appelle la rotation différentielle du Soleil. Donc je n'ai pas eu le temps de vous parler de la rotation, mais c'est intéressant d'en parler un petit peu. Je vous ai dit que les étoiles tournent, mais en plus elles ne tournent pas de façon uniforme. Et bon, le Soleil, on le voit bien, les régions de l'équateur du Soleil tournent plus vite que les régions polaires. Ça s'enroule. Bon. Maintenant, il y a toujours ce fameux champ magnétique. Le Soleil est magnétique, comme la Terre d'ailleurs. La Terre est magnétique, hein, c'est pour ça qu'on se repère à la boussole. Mais dans le Soleil aussi, le Soleil est magnétique. Il y a un pôle nord, un pôle sud magnétique. Et ce champ magnétique, eh bien, il va du pôle nord au pôle sud, bon, vers l'extérieur, et puis aussi à l'intérieur du Soleil. Et il est étiré, ce champ magnétique, à l'intérieur du Soleil à cause de la rotation différentielle. Donc ça fait comme une bobine qui s'enroule. L'équateur, ça fait enrouler ce champ magnétique. Et ce champ magnétique qui s'enroule, ça devient instable. Et en fait, c'est la raison pour laquelle, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je n'avais pas expliqué ça, mais c'est la raison pour laquelle, quand ça devient instable, il y a du champ magnétique qui sort, qui rentre, et il se crée des taches solaires, parce que quand ça sort, ça rentre, ça fait deux taches solaires. Et donc, ça se bobine, c'est de plus en plus instable, il y a de plus en plus de tâches solaires. Il se trouve qu'au bout de 11 ans, pourquoi 11 ans ? Ben, c'est comme ça, c'est la structure du Soleil qui le veut. Il se trouve qu'au bout de 11 ans, c'est devenu tellement instable que tout se chamboule. En plus, le pôle Nord devient pôle Sud et le pôle Sud devient pôle Nord. Et il n'y a plus de tâches. Et c'est reparti pour 11 ans. Donc, en fait, il y a un cycle de 11 ans, mais en fait, c'est 22 ans, parce qu'il faut 22 ans pour retrouver le pôle Nord au même endroit. Et quand il y a beaucoup de tâches solaires, à cause de ces effets magnétiques, il y a aussi des lignes de champ magnétique qui sortent du Soleil partout, et des jets de matière aussi, j'ai pas eu le temps de parler de ça non plus, mais le Soleil émet du rayonnement, mais il émet aussi des particules, il y a de la matière qui s'échappe du Soleil. Je vais vous dire ça, pas en milliards de milliards, je vais vous dire en puissance, 10 puissance moins 14, la masse du Soleil sont perdues par an par matière qui s'échappe. Cette matière, elle est canalisée dans les lignes de champ magnétique. Et ça arrive jusque sur la Terre. Alors quand ça arrive sur la Terre, ça n'arrive pas directement parce qu'heureusement la Terre est magnétique aussi. Et le champ magnétique de la Terre fait comme un bouclier. Donc le champ magnétique de la Terre arrête ces particules qui viennent du Soleil et elles s'accumulent et puis elles tombent vers la Terre. Mais quand elles tombent vers la Terre, elles tombent vers les pôles magnétiques et ça fait les aurores boréales. Et alors quelquefois... quand le Soleil se met en colère, il y a du champ magnétique plus intense, il y a plus de tâches, il y a plus de particules qui s'échappent. Des aurores boréales, on peut en voir plus à des latitudes plus basses. C'est arrivé le mois dernier, je crois qu'on a vu des aurores boréales dans nos régions, alors qu'en général, on les voit uniquement dans les régions polaires. Et puis, il y a des effets magnétiques qui arrivent jusque sur la Terre, ce qu'on appelle les orages magnétiques. Et c'est vrai qu'on peut c'est pas grave, c'est pas grand-chose, mais on peut le sentir dans les télécommunications, enfin tout ce qui est transmission d'ondes électromagnétiques, parce que ça sent le champ magnétique. Donc il y a un effet direct du soleil sur la Terre, ça c'est évident.
Merci Sylvie, vous pouvez.